Avec Léa Salamé, notre invitée ce matin est journaliste, directeur du Monde des Livres. Il publie « La religion des faibles, ce que le djihadisme dit de nous ». C'est aux éditions du Seuil, ce sera en librairie demain. Bonjour Jean-Birnbaum.
Bonjour.
Avant d'en venir à votre livre, j'aimerais déjà votre réaction au décès hier soir de Marceline Loridan, amie de déportation de Simone Veil, femme extraordinaire. Quand Simone Veil est morte, elle avait déclaré, Marceline Loridan, que c'était la fin d'une époque. Cette époque, c'est celle des témoins directs de la Shoah.
Oui, et ceux qui portaient physiquement en fait cette mémoire, parce que Marceline Loridan, bon, je l'ai un petit peu connue, on l'a croisée les uns les autres, c'est quelqu'un dont la présence physique était extrêmement impressionnante. Elle portait physiquement cette mémoire et ce désir de transmission, ce désir aussi d'universel, parce que c'est quelqu'un qu'on peut définir comme une rescapée de l'universel, qui a passé sa vie à essayer d'investir ce qui lui était arrivé dans une espèce de surenchère universaliste, dans tout un tas de combats internationalistes, la guerre d'Algérie, le Vietnam, la Chine, etc. Et quand on parle d'elle, on parle effectivement de cet héritage qui nous oblige, de sa présence extrêmement forte, du fait qu'elle était la vie même, qu'elle a jamais renoncé à la séduction, par exemple, cette présence très féminine. Son dernier livre était sur l'amour. Et puis moi, c'est dur, on va pas faire du pathos, c'est tout. Moi, quand je pense à elle, je pense à cette phrase magnifique de Yankelevitch qui disait « Il s'agit pas d'être sublime, il s'agit d'être fidèle et sérieux ».
15 jours après les attentats de Charlie Hebdo, il y a 3 ans, Marceline Loridan était l'invitée d'une matinale mémorable présentée par Patrick Cohen. Une matinale très forte et je crois que beaucoup d'auditeurs s'en souviennent. Et voilà ce qu'elle disait, on est 15 jours après Charlie Hebdo, voilà ce qu'elle disait sur le retour de l'obscurantisme et de l'antisémitisme.
Il ne faudrait pas faire semblant que le monde a changé. Il n'a pas tellement changé encore. Il est en train de changer dans le pire, dans la barbarie la plus stupide, la plus totale, l'obscurantisme honteux. Donc vous devriez tous et nous tous avoir honte si c'est ça qu'on peut laisser à des enfants que je n'ai pas voulu avoir. Ben mince alors. Ne faisons pas semblant de ne rien savoir. Vous croyez que les Français seraient descendus dans la rue si on n'avait tué que des Juifs il y a 15 jours? Non.
Voilà.
Oui, mais c'est exactement, c'est assez bouleversant d'entendre sa voix et de l'entendre dire ça. On sent la colère, on sent aussi cet héritage de peur.
Elle était extrêmement en colère ce matin-là.
Oui, mais c'est aussi qu'on voit bien que c'est quelqu'un, je le disais, qui a réinvesti le grand plus jamais ça de l'après-Shoah dans tout un tas de combats universaliste, donc effectivement, c'est quand même Marceline Loridan, on pense tout de suite à la Shoah, mais en fait c'est Algérie année zéro, c'est un grand film, grand film, sur où il y avait déjà derrière une scène qui tendait et qui faisait comprendre beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. C'est ensuite la lutte contre la guerre au Vietnam, c'est donc la Chine, dont elle a peu parlé, on en avait parlé avec Pierre Aski à une époque. Donc c'est quelqu'un qui a tout le temps, elle a souffert, elle fait partie de ces gens qui ont souffert d'une oppression particulière et qui a voulu tout le temps réinvestir cette oppression ou la mettre au service d'une sorte de surenchère, oui, d'universalisme à perdu.
Donc vous parlez un peu dans votre livre d'ailleurs, et on va y venir, voilà. Mais si je vous repose la dernière question qu'elle pose elle-même au micro de Patrick Cohen, est-ce que les Français seraient descendus dans la rue s'il n'y avait eu que des victimes juives? Non, dit-elle.
Mais je ne sais pas, parce que Carpentras c'était aussi des victimes juives et les Français étaient dans la rue, et que par ailleurs là ce qu'elle veut dire, et effectivement ça a un rapport avec le livre, c'est que quelque part, les journalistes de Charlie Hebdo aussi c'était particulier, c'est-à-dire qu'en fait l'effet de cisaille dans les consciences de la France, de française, c'est le Bataclan. En fait, Charlie Hebdo, oui, ça a été un monde fou, etc. L'hypercachère, c'était important, ça a marqué les consciences. Mais le basculement, c'est le Bataclan. Et donc, pour Marceline Loridan, effectivement, elle sait qu'être survivant, c'est être solitaire. Les survivants ont tous été dans la solitude jusqu'au bout, parce qu'on ne revient pas de tout ça indemne, etc. Mais elle a toujours souffert, elle a toujours voulu que cette solitude soit brisée dans des combats plus larges qu'elle-même a menés. Donc cette colère-là, c'est pas une colère identitaire égoïste, etc. C'est une espèce de tristesse de retrouver une solitude chez les survivants.
Jean-Birnbaum, vous poursuivez donc votre enquête intellectuelle, on peut le dire comme ça, sur le terrorisme et les sociétés occidentales qu'il a frappées. La religion des faibles, donc, aux éditions du Seuil. Ces terroristes, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur histoire ou leur nationalité, je vous cite, se réclament des mêmes versets, des mêmes anges protecteurs, des mêmes révélations prophétiques. Est-ce que c'est cette forme-là de religion ou de croyance qui est devenue littéralement incompréhensible pour des sociétés comme les nôtres, qui sont non seulement laïcisées mais sécularisées?
Mais oui, et d'ailleurs, vous disiez c'est une enquête intellectuelle et vous avez raison, mais c'est quelque part aussi une enquête charnelle. On revient à ce que disait Marceline Loridan tout de suite, c'est que en fait, je pense que nous sommes tous, et c'était le cas, la sidération dans les manifestations après, auxquelles faisait allusion là sur après les attentats de Liber Kachir et de Charlie, c'était aussi une sidération physique. Les gens étaient dans un malaise physique et c'était une manifestation interdite quelque part, pas parce que la préfecture l'aurait interdite, mais parce que tout le monde était interdit. Personne n'arrivait à mettre des mots dessus parce que, et c'était le sujet de mon précédent livre là pour le coup, nous avons perdu la capacité à prendre au sérieux la question religieuse et donc à affronter et à cette puissance incroyable qui est celle du djihadisme et qui effectivement ils peuvent être pauvres ou riches, ils peuvent venir de mille horizons différents, ce qui les relie, hein, parfois ils sont ignares comme on le dit souvent, mais parfois ils sont très érudits, c'est pas vrai du tout que c'est tous des débiles ou des cas sociaux, etc. Ce qui les relie tous, c'est de tendre vers un horizon effectivement de spirituel, vers des versets, des gestes, des révélations prophétiques, etc. etc.
Et face à ça, votre livre s'appelle « La religion des faibles ». Les faibles, Jean-Bernard Baum, c'est qui les faibles? C'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est Nicolas.
Oui, les faibles, en fait, c'est à nouveau, c'est physique. Moi, comment c'est venu ce nouveau livre? C'est venu parce que le précédent a donné lieu à des dizaines de rencontres en public, dans des milieux extrêmement différents, vraiment très différents socialement, de tout point de vue, des origines, etc. Et partout, j'ai rencontré, c'était après le Bataclan, c'était quelques semaines après le Bataclan, partout, j'ai rencontré un doute et un sentiment de vulnérabilité très très fort. Et ça part de là, c'est une enquête intellectuelle qui part d'une sensation solide, de vulnérabilité, c'est-à-dire ça part de...
C'est-à-dire que les gens se sont sentis faibles, se disaient faibles,
oui,
face à ce que vous appelez la puissance, l'immense puissance séductrice du djihadisme.
Mais oui, cette simple fait massif qui est pour moi une angoisse et un traumatisme majeur pour tous les gens qui se réclament du progressisme, qu'aujourd'hui, la seule espérance pour laquelle des milliers de jeunes européens sont prêts à mourir à l'autre bout du monde, c'est cette espérance djihadiste. Et donc dans les réunions dont je vous parlais, eh bien les gens disaient « Mais oui, si cette croyance-là est très puissante, si elle séduit tant de jeunes, si elle nous sidère à ce point-là, c'est sans doute qu'elle dit quelque chose de notre propre vulnérabilité et de la fragilité de nos croyances à nous autres vieux Européens, héritiers du vieil universalisme dont on parlait à propos de Marceline Loridan. Universalisme européen, voilà, socialiste, libéral, démocratique, féministe, antiraciste, etc., etc. Tout ça, c'est une croyance, c'est un credo dans lequel j'ai grandi, dans lequel on a les uns les autres souvent grandi. Et on s'aperçoit aujourd'hui au miroir du djihadisme, cette croyance conquérante, eh bien que notre credo à nous, qu'on a toujours pensé être universellement désiré et appelé à rayonner dans toute la surface de la Terre, eh bien aujourd'hui apparaît comme quelque chose de très fragile, de très marginal, et peut-être qu'il aura représenté une petite parenthèse dans l'histoire humaine.
Mais quand des millions de gens, c'était des millions après les attentats de Charlie Hebdo, descendent dans la rue et manifestent, ne font-ils pas une manifestation de force précisément, de force sereine, de force démocratique, qui consiste à c'est-à-dire, je suis Charlie, je suis en terrasse, je continue à vivre. Et c'est ça, c'est la force calme, peut-être plus que la faiblesse. Je vous pose la question.
Oui, bah c'est une vraie question. Il se trouve que par ailleurs, si vous voulez, oui, c'est sans doute une force calme. Et d'ailleurs, il faut saluer le calme, le calme après chaque attentat, etc. Globalement, le calme de nos sociétés. Il se trouve que l'ennemi n'est pas nommé dans cette manifestation, et que je pense que si c'était Breivik qui avait tué, il aurait été nommé. Je pense qu'il aurait été nommé. On a tous eu l'habitude de faire des manifestations antiracistes ou antifascistes. Moi, j'ai été élevé dans cette culture-là. Donc, je pense que si ces attentats avaient été commis par des gens qui se réclament de l'extrême droite ou du nationalisme ou du fascisme ou des choses comme ça, l'ennemi aurait été nommé.
Oui, mais je là, pense on est 3 ans après, l'ennemi, il est nommé là maintenant. Non, vous n'avez pas l'impression qu'il y a, depuis l'écriture de votre précédent livre, qu'il y a une évolution, notamment à gauche. Il n'y a plus de on tourne les yeux, on n'en parle pas, on ne nomme pas. Je crois que tout le monde nomme le mal aujourd'hui, non? Ou c'est encore un problème?
Bah justement, là, en fait, je répondais à la question de Nicolas sur de Morance, sur la manifestation de janvier 2015. Là, on ne nomme pas. Aujourd'hui, effectivement, et c'est pour ça que j'écris un nouveau livre, je pense qu'on est passé à un autre moment et que je l'ai ressenti physiquement dans les réunions dont je vous parlais ou ailleurs. C'est-à-dire que effectivement, on a avancé, les choses ont bougé, on a moins de difficultés à nommer une sorte d'ennemi ou en tout cas d'agressivité ou d'agression et y compris la dimension religieuse de cette violence, mais on se sent quand même très très fragile et démuni face à ça. C'est-à-dire effectivement cette espérance-là, qu'est-ce qu'on peut lui opposer? Et moi j'ai rencontré partout, et notamment c'est ça la question, c'est chez les progressistes, à gauche, c'est un traumatisme majeur si vous voulez. Moi j'ai grandi à nouveau dans ma culture politique et un parmi d'autres, on était tous convaincus convaincu, c'était l'évidence, que si l'Occident, qui était forcément la seule puissance d'oppression, voilà, dominatrice, colonialiste, etc., si l'Occident devait être remis à sa place et cassé dans sa domination, ce serait au nom de valeurs occidentales, ce serait au nom soit de la nation, soit du nationalisme, soit du socialisme, du féminisme, enfin de l'émancipation. Là, on a affaire à des gens, et c'est un tournant et un traumatisme que pour l'instant on a du mal à assimiler, qui défient l'Occident au nom de valeurs qui ne sont pas du tout celles de l'Occident, qui s'inscrivent dans un autre calendrier, dans d'autres valeurs, et ça, pour le coup, on se sent quand même très vulnérable, même si on essaye de le nommer à notre manière.
Mais pourquoi réduire l'ennemi de l'Occident ou l'ennemi de ces valeurs-là au djihadisme? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un autre ennemi, peut-être que le mot est trop fort, mais de ces régimes autoritaires, de ces démocraties illibérales qui fleurissent partout et qui défient l'Occident tout autant que le djihadisme?
Tout à fait. Et d'ailleurs, j'en parle dans le livre, évidemment. La question pour moi est de dire, quand on a été élevé dans la culture, la mémoire de la gauche, la mémoire du progressisme, la mémoire internationaliste, on pense tout de suite à la guerre d'Espagne, à ceux qui volaient au secours des républicains espagnols, on pense à la guerre d'Algérie, il y a eu Maurice Audin, l'actualité Maurice Audin tout récemment avec Emmanuel Macron, on pense à tous les gens qui considèrent qu'il n'y a pas plus beau quelque part qu'être internationaliste, en tout cas se battre pour la justice ailleurs que chez soi aussi, c'est-à-dire à voler au secours d'autres, etc. Là, le simple fait, je le répète, que la seule internationale et la seule espérance au nom de laquelle des milliers de jeunes Européens sont prêts à mourir, c'est celle du djihadisme. C'est quelque chose d'énorme, évidemment, que par exemple Poutine, l'impérialisme, enfin l'expansionnisme ou la violence ou la dictature poutinienne, et puis les velléités d'hégémonie chinoise, etc. Tout ça ou d'autres types d'idéologies agressives ou en tout cas opposées à une certaine modernité occidentale, ça existe. Mais aujourd'hui, et c'est très fort, il faut en parler. J'en parle dans le livre. Mais aujourd'hui, et c'est ça qui m'intéresse, l'idéologie qui nous renvoie le plus violemment un miroir de vulnérabilité, c'est celle du djihadisme, parce que c'est la seule qui est un universalisme conquérant et rival. Personne aujourd'hui, il n'y a pas un jeune Européen qui est allé mourir au nom de l'impérialisme poutinien ou au nom de l'expansionnisme chinois. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, le désir politique, la puissance d'aimantation qui bouleverse et qui bouscule et qui mine et qui nous déroute, c'est d'abord celui-là. Mais il n'est évidemment pas le seul. Il m'intéresse, moi, comme miroir à notre fragilité pour décrire cette fragilité.
Vous dites, Jean Birnbaum, dans le livre, que l'une des solutions, ou en tout cas l'un des moyens pour penser cette situation-là, c'est de digérer son passé, et notamment le passé colonial. Est-ce que, vous avez cité son nom, Emmanuel Macron y a contribué en reconnaissant la responsabilité de l'État français dans la mort de Maurice Audin en Algérie? Quel type d'effet ça peut avoir sur la réalité que vous décrivez?
Mais je pense, je sais pas ce qu'il a exactement dans la tête, mais quelque part, oui, je trouve que ça rejoint des choses que j'essaie de décrire dans le livre. C'est-à-dire que, à la fois, il y a ce geste qu'on peut penser, que certains vont considérer comme quelque chose qui relève de la repentance, de la pénitence occidentale, etc. Mais qu'on peut interpréter complètement autrement. On peut interpréter ça comme une façon de ne plus mettre un tabou sur la période coloniale, de dire, bah oui, on assume, c'est un moment, il faut reconnaître ce qui s'est passé pleinement. Moi, j'ai grandi absolument dans la mémoire de la guerre d'Algérie. Le livre que j'ai lu le plus tôt quasiment politique et que j'ai le plus offert dans ma vie, c'est La question d'Henri Alleg, ce témoignage sur la torture en Algérie. Mais justement, quelque part, Emmanuel Macron est représentatif d'une génération qui est capable de mettre des mots sur cette période, de reconnaître les crimes et en même temps de la remettre à sa place et de dire, quand il était à Ouagadougou, de dire bah écoutez, on n'est plus une puissance coloniale, maintenant c'est fini, on reconnaît ce qui s'est passé, maintenant l'Europe, la France n'est plus hégémonique et donc même elle est fragile. Et donc quelque part, reconnaître tout ça, c'est reconnaître que ça a été un moment que, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, la colonisation n'est pas l'alpha et l'oméga du passé et du présent, que peut-être ça représentait aussi un moment qui est clos, et que donc, eh bien, la fameuse Europe que nous critiquions, que nous fustigions, et qu'on avait raison de fustiger dans ses velléités hégémoniques et colonisatrices, mais aujourd'hui, elle est ailleurs, elle n'est plus le centre du monde, elle n'est plus le centre de l'histoire, et donc on peut retrouver la capacité à la défendre.
Vous posez la question, pourquoi avoir peur d'évoquer une guerre de civilisation? C'est un terme que Manuel Valls, notamment, a beaucoup utilisé à ce micro, particulièrement. Vous pensez que c'est ce qu'on est en train de vivre, une guerre de civilisation?
Mais je pense que c'est à nouveau la question de l'universalisme. En fait, il n'y a pas d'universalisme sans tranchant et sans conflit d'universalisme. Un universalisme, c'est jamais tout seul. Et donc, il y a toujours d'autres universalismes. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas d'autres. Et donc, je pense qu'une chose très importante, c'est de montrer, et j'essaie de citer des grands penseurs de la gauche, des grands historiens de gauche, qui n'avaient aucun problème à nommer les face-à-face culturels ou civilisationnels qu'il y a eu dans le passé. Et donc, ils n'avaient pas honte de considérer que la culture ou les espaces de culture pouvaient être antagonistes. Je parle de Maxime Rodinson, qui est une grande figure du tiers-mondisme et de la gauche anticolonialiste et qui est spécialiste de l'islam, et qui n'avait aucun problème à dire que la chrétienté et l'islam étaient deux univers en lutte à un certain moment et que l'Europe s'est largement constituée dans le face-à-face avec l'islam. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut pas que l'Europe justement se referme comme une ligne de barbelés, si on veut pas qu'elle se referme sur un nous tribaliste, identitaire et violent, il faut être capable de renouer avec un nous européen qui est un nous ouvert, en mouvement, contradictoire, de diverses origines, etc. Mais qui doit assumer qu'il n'est pas, qu'il y a un nous et qu'il y a pas, que tout ne revient pas au même et qu'il y a donc de l'autre. Et donc l'autre, il faut à nouveau pouvoir le nommer.
Il est 8h37, on va aller au standard de France Inter. J'ai le plaisir de donner la parole à Chantal. Soyez la bienvenue Chantal, bonjour.
Oui, merci. Merci Monsieur Demorand et merci aussi encore. Et toujours par la qualité de votre émission qui s'accentue de jour en jour.
C'est gentil.
Oui, pas.
Le progrès est encore vivant alors.
Oui, bien sûr. Et justement, à propos de progrès, je voulais poser cette question à votre invitée. Elle me donne beaucoup d'émotions rien qu'à la poser. Pensez-vous que demain, après-demain, plus tard, l'espèce humaine, les humains, prendront conscience du leur, j'ai bien dit du leur avec un L majuscule, qui existe dans toutes les religions et qui n'est pas forcément la bonne spiritualité.
Merci Chantal pour cette question que je transmets à Jean Birnbaum.
Écoutez, je sais pas moi si, enfin, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Effectivement, toutes les religions, en tout cas, sont porteuses de crispations doctrinaires, de visions de lectures littéralistes et dangereuses de leurs textes fondateurs. Et en même temps, toutes les religions, donc elles ont toutes effectivement leurs dangers, leurs crispations, y compris sanglantes. Et en même temps, les religions posent et reposent en permanence la question de l'espérance, c'est-à-dire la question d'un au-delà du monde présent. Et quelque part, de ce point de vue, elle pose une question qui, quand vous disiez l'émission est meilleure de jour en jour. Vous inscriviez dans une vision quelque part presque religieuse, parce que c'est une vision un peu voilà.
Mais pour reprendre et reposer la question de Chantal différemment, est-ce que la laïcité n'est pas aujourd'hui un concept faible? Parce qu'on sent que si toutes les religions sont critiquables, c'est que la laïcité est une alternative robuste et nourrissante, mais n'est-elle pas devenue faible aujourd'hui ?
La laïcité, elle est très forte comme cadre et comme cadre de démocratique, de pluralisme, etc. La laïcité, justement, n'est pas du tout d'ailleurs une arme de combat contre les religions. C'est juste une manière de dire aucune religion ne doit pouvoir mettre la main sur l'espace public et tout le monde doit pouvoir pratiquer sa religion et la liberté de culte. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, un des problèmes qui se pose, c'est qu'à chaque attentat, les pays touchés, la Belgique ou l'Allemagne ou la France, et là, à chaque fois remettent en question leur cadre laïque ou leur façon de gérer les religions ou de gérer l'espace public, etc. Alors que un des aspects qu'on a du mal à nommer et à affronter, c'est que la force du djihadisme, c'est qu'elle est mondiale et qu'à chaque attentat, on convoque l'adjoint à la mairie de Molenbeek pour lui dire espèce de tocard, vous n'avez rien vu venir, c'est le problème des ronds-points, des HLM, etc. Et la personne en question est un peu démunie parce qu'elle a affaire à un phénomène mondial. Et que nous, quand on répond avec notre cadre laïque et français, effectivement, on galère un peu parce qu'on a affaire, alors c'est un outil très précieux et très important qu'il faut défendre, mais on a affaire à quelque chose qui dépasse largement le cadre de telle ou telle législation nationale.
Retour au standard. Bonjour Philippe, bienvenue, vous avez la parole.
Eh bien écoutez, je dis exactement la même chose que l'auditrice précédente sur la qualité de vos émissions. Et par contre, je peux pas dire que les dirigeants occidentaux aient toujours œuvré dans le sens de la même qualité quand on voit leur comportement. Notamment, on a une grande responsabilité dans tout ce qui se passe parce que nous avons laissé pourrir des situations, soutenu des dictatures insoutenables pour des raisons bassement commerciales, de trafic d'armes et d'influence. Et je pense que nous payons l'addition aussi par, pas nous-mêmes peut-être, la lâcheté de nos dirigeants qui n'ont qu'une préoccupation court-termiste et qui ne voient pas le mal qui arrive, et ça s'applique à tous les domaines, y compris à l'environnement. Nous sommes en grave danger, et que font-ils? Rien. Donc vous ajoutez Daesh plus j'ai dit à Hulot, c'est pas la planète qu'il faut sauver, c'est nous. C'est nous. Et qu'est-ce qu'on fait? Que font nos dirigeants? On se chamaille sur de la politique politicienne, on laisse tomber des peuples qui se révoltent en remettant les dictatures en place parce qu'on leur vend des armes.
Enfin, bien compris, Philippe.
Quand je regarde le monde, le miroir est noir.
Bien compris, Philippe. Merci beaucoup. Je donne la parole à Virginie maintenant au Standard d'Inter. Soyez la bienvenue. On vous écoute, bonjour. Virginie. Bonjour.
Bonjour, messieurs, dames. Alors, tout d'abord, je rejoins complètement l'auditeur précédent. Je suis tellement d'accord avec ce qu'il dit. Et puis, ma question, c'était la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à force de se pencher sur son passé, la France, avec son repentir sur ses actions coloniales, etc., n'oublie pas ou ne fait pas semblant d'oublier qu'il est temps, il est grand temps de remettre en question ce qu'elle est aujourd'hui. Mmh. Et notamment par rapport à ces jeunes qui partent se battre pour d'autres idéaux, simplement remettre en avant vraiment dans notre politique ce qu'on a vendu comme étant les valeurs de l'Europe, à savoir notamment l'égalité, la fraternité, qui ne sont pas du tout ce que vivent aujourd'hui les jeunes, et notamment les jeunes issus de l'immigration, puisqu'on a oublié d'intégrer une grande partie de notre population.
Merci Virginie pour cette intervention. Philippe, Virginie, je transmets les questions à Jean Birnbaum.
Ben oui, ben merci beaucoup pour ces questions qui sont passionnantes et essentielles. Moi, j'ai été élevé, pour répondre à Philippe d'abord, j'ai été élevé au milieu des piles du monde diplomatique et de l'humanité. Donc, disons que moi, mon réflexe premier, dès qu'il se passe quelque chose sur la planète Terre, c'est toujours de penser que c'est d'abord le problème de l'Occident, de ce qu'il a fait, de sa responsabilité dans le passé, etc. Et d'aujourd'hui, de ses complaisances, de ses compromis, de ses compromissions, de ses trahisons, de son cynisme, etc., etc. C'est mon réflexe premier. Je pense aussi...
La culpabilité.
Et puis, les responsabilités, voilà.
Au sens fort.
Mais simplement, je pense que c'est pas du tout dire, il faut en finir avec la pénitence, etc., de dire qu'aujourd'hui, on doit pouvoir penser que justement, si on veut penser aux autres, si on veut se prétendre tiers-mondis, si on pensait qu'il y a un monde tiers, il faut aussi être capable de penser que l'Occident n'est pas l'alpha et l'oméga de tout, que tout ne commence pas avec la colonisation, que tout ne finit pas avec la colonisation, que l'Occident n'est pas le seul acteur historique. Ce que je montre à un moment donné dans le livre, c'est que beaucoup de gens qui se réclament aujourd'hui de la gauche ou du postcolonialisme, etc., en fait, sont obsédés par la domination. Ils prétendent remettre l'Occident à sa place et casser son hégémonie, mais en fait, ils le voient partout. Tout ce qui se passe est toujours soit de sa faute, soit de son fait. Et je pense que une des choses aujourd'hui qu'il faut faire, c'est effectivement être capable de remettre l'Occident à sa place, l'Europe à sa place, et de voir qu'ils n'ont plus l'hégémonie qui était la leur autrefois, et que donc parfois tout n'est pas de leur fait. Et du point de vue de Virginie, de ces jeunes, effectivement, je suis totalement d'accord. Là aussi, c'est complètement ma culture politique. Je pense que un des énormes problèmes qui se pose, c'est qu'il n'y a pas, et c'est aussi la question dont on parlait tout à l'heure de la religion, de l'au-delà, c'est que tous ces jeunes qui n'ont pas d'horizon, eh bien, ils n'ont pas, on leur propose pas un au-delà du monde possible. Il y a cette formule dans un des raps de Booba il y a longtemps où il disait, heureusement, il y a l'au-delà pour nous maintenir. C'est-à-dire, un au-delà du monde présent. Qu'est-ce qu'on propose comme perspective, pas forcément spirituelle ou religieuse, mais quelque chose de mieux, quelque chose de mieux, changer la vie, comme disait tout simplement Mitterrand en 80.
Vous citez Booba, on peut citer aussi l'œuvre complète de Michel Houellebecq qui décrit parfaitement le vide de l'Occident, non ?
Oui, mais simplement, Michel Houellebecq, il dira pas « heureusement, j'ai l'au-delà pour me maintenir ». Il montrera juste qu'il n'y a pas d'au-delà du tout qui maintient.
Il y a quand même des gens qui ont envie. La société consumériste et capitaliste, en tout cas occidentale, est vide de sens.
Et qu'elle a donné tout ce qu'elle pouvait donner.
Une fois qu'on a acheté les Nike et qu'on est allé en Thaïlande et qu'on a acheté notre smartphone, il n'y a rien.
Oui, et là, à nouveau, en même temps, puisqu'on a l'air de l'en même temps, on peut peut-être dire à la fois qu'il y a ça, et qu'en même temps, ce qui se passe au miroir du djihadisme, c'est qu'aujourd'hui, nous découvrons collectivement que tout un tas de choses, ce consumérisme, ces démocraties qu'on a souvent considérées comme hypocrites, ces libertés, ces formes de vie qui sont les nôtres, eh bien, effectivement, elles ont leur hypocrisie, leurs limites, etc. Mais quand même, au miroir du djihadisme, on découvre qu'on peut aussi avoir envie de les défendre, et qu'elles sont l'aboutissement de tout un tas de combats sociaux, de mobilisation très concrète, très pratique, et que donc, à nouveau, là aussi, il y a quelque chose sans doute qu'on doit pouvoir défendre avec une forme de fierté.
Jean Birnbaum, merci. La religion des faibles est le titre de votre nouveau livre, Ce que le djihadisme dit de nous. Deuxième volet donc de cette enquête après un silence religieux. C'est publié aux éditions du Seuil et en librairie demain.